Nous avons commencé à nous poser le problème, comment pouvons-nous aujourd'hui découvrir, redécouvrir ce que représente cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Nous savons ce qu'on doit céder de ce que les philosophes ont pu dire, nous savons que, de fait, cette distinction est la plus difficile de toute la philosophie. Ça, on peut le dire tout de suite. Et c'est bon de savoir. Mais comme quand on met route avec du verglas. Donc, on sait que c'est difficile, que cette voie d'accès vis-à-vis de cette distinction est périlleuse. Et que très peu, au plan philosophique, l'ont faite. Je crois que c'est très important d'alerter au point de départ. Ça fait partie, si vous voulez, de l'attention spéciale qu'on doit avoir. Puisque dans la topique historique, on voit tout de suite que très peu l'ont découvert. Même à l'intérieur du thomisme. À l'intérieur du thomisme, vous jugez tout de suite si vous êtes en face d'un vrai thomiste ou d'un petit. Et c'est suivant qu'ils ont fait l'escalade de l'Himalaya ou pas. Alors, suivant que tous parlent de la substance, très mal, en disant que la substance est sujet. À peu près tous. Très peu ont découvert la substance comme principe. Très peu. Et quand il s'agit de l'acte et de la puissance, alors là, la distinction de l'acte et de la puissance est réduite à la distinction réelle d'essence et d'existence. Regardez pour cela le petit livre du Père Gardel, l'initiation à la philosophie de saint Thomas, c'est particulièrement significatif. Et le Père Gardel est parmi ceux qui parlent de saint Thomas, un des plus intelligents. Un de ceux qui ont le mieux saisi. Et de fait, quand vous regardez la question de la distinction de l'acte et de la puissance, vous voyez que ça disparaît. Pourquoi cela? C'est parce que la plupart ne sont pas revenus à Aristote. Il faut saisir le pourquoi. Ils sont restés dans la perspective suarésienne. Et donc, ils n'ont pas saisi l'importance de la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Donc, ceci, c'est pour montrer l'importance. C'est difficile. On est devant quelque chose... On doit redécouvrir. C'est pas parce que c'est difficile qu'on se dit on va pas le faire. Non. Quand on a compris l'importance, et Heidegger nous le rappelle, c'est quand même intéressant de voir que Heidegger, qui est dans une perspective assez différente, rappelle que cette distinction est capitale. Que nous sommes là au sommet de toute la recherche philosophique grecque. Alors comment devons-nous le faire? Première chose, je vous ai dit, le langage. Et je crois que c'est important, sans insister de trop. Le langage est un signe. C'est un signe qui doit nous aider à nous remettre en face de certaines distinctions qu'on a perdues. Et c'est la question du verbe. La substance n'explique pas le verbe. Le verbe exprime l'action et radicalement exprime que nous sommes dans un état particulier qui fait que nous existons. Je suis. Le verbe être. Alors là, ce serait intéressant de regarder les bons philologues qui parlent du verbe être au point de vue latin, au point de vue grec, au point de vue des diverses langues actuelles. Là, il y a toute une étude qui serait très intéressante à faire au point de vue proprement philosophique. Encore une fois, ce n'est qu'un signe, mais c'est un signe qui doit nous alerter et nous aider, surtout face à la philosophie analytique d'aujourd'hui. En montrant que la philosophie analytique, ce que je vous disais la dernière fois, mais je le répète parce que je crois que c'est important, il faut que nous comprenions le piège de la philosophie analytique. Il faut que nous comprenions la séduction de la philosophie analytique et que nous puissions répondre à la philosophie analytique d'une façon qui soit vraie. C'est un peu une perspective critique, si vous voulez. Mais c'est quand même très important de saisir que, de fait, dans la philosophie analytique, on considère le langage comme un absolu. Toute l'erreur est là. Le langage ne peut pas, au plan philosophique, être considéré comme un absolu. Et donc, si le langage ne peut pas être considéré comme un absolu, nous devons essayer de comprendre ce que le langage peut nous dire. Or, le langage nous montre le problème de la signification au niveau proprement du nom, donc dans la ligne de la philosophie de la substance. Mais le langage ne nous dit rien. Je veux dire, le problème de le langage nous montre qu'il y a un au-delà de la signification. Je crois que ça, c'est très important à saisir. La philosophie analytique ne peut pas le dire. Très curieux. C'est ça qui les ennuie le plus. Parce qu'en fond, la philosophie analytique reste au niveau de la signification. Ils veulent définir, définir, définir toujours. Eh bien, tout n'est pas définissable. Le vieil Aristote avait déjà dit, quand vous voulez tout définir, vous ne définissez rien. Parce qu'il y a un au-delà de la définition. Et l'au-delà de la définition, c'est un au-delà de la signification. C'est le verbe. Le verbe vous met là, en face d'un au-delà de la signification. Il y a quelque chose que le langage nous montre d'une façon très nette. Et ceci nous montre par le fait même que la philosophie analytique ne peut pas répondre elle-même au langage. Ce qui est toujours comme cela. Quand on a affaire à une réalité qui est relative, essentiellement relative, si vous la prenez comme un absolu, elle ne se justifie pas elle-même. Il faut dépasser le langage pour justifier le langage. Nous abordons alors maintenant le problème au plan philosophique. Et nous comprenons que la très grosse difficulté pour nous, qui sommes post-hégéliens, la très grosse difficulté pour nous, c'est de dépasser la philosophie hégélienne. Ça, c'est très vrai. Même si on n'a pas fait de philosophie, on est tous un peu hégéliens sur les bords. Sans le savoir. Donc c'est quand même très important de faire cet effort de dépasser la dialectique hégélienne. Parce qu'elle nous en sert, elle nous prend, elle nous saisit. Et alors il faut essayer de comprendre que nous devons redécouvrir la distinction entre l'être et le devenir par l'être en acte. Étant donné que la substance, la découverte de la substance, ne suffit pas à la distinction plénière de l'être et du devenir. Et on l'a dit, et je crois que c'est bon de le répéter, c'est vrai, Hegel joue par rapport à notre pensée ce que Aristote a joué par rapport à la pensée philosophique pendant des années et des années. Jusqu'à la naissance de Hegel. Alors, je ne dis pas que Hegel a supprimé Aristote, mais Hegel est quand même le grand génie systématique de notre monde d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il est le plus intelligent parmi tous les modernes, hein, mais il est celui qui a joué ce rôle très très important dans notre philosophie. Il faut le savoir. Il faut donc, face à cette dialectique hegélienne qui entrelace constamment l'être et le devenir, et qui l'entrelace d'une manière telle qu'on ne peut plus séparer l'être et le devenir, il faut essayer de redécouvrir ce que représente cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Et je dis, la première chose, c'est d'essayer de découvrir comme des états différents. Ensuite, il faudra induire. Mais l'induction n'est possible que quand on est en face de la description d'états différents. Je ne pourrai pas induire le point de vue de l'être en acte et de l'être en puissance à partir d'une pensée hegelienne. C'est impossible. Vous n'avez qu'à faire vous-même l'expérience, parce que dans ce domaine-là, il faut que nous fassions notre expérience. Il faut que chacun d'entre nous, nous ayons essayé d'aborder le problème de l'être en acte et de l'être en puissance de façon différente. Alors, je vous disais la dernière fois, parce que je crois que c'est comme ça qu'on doit le faire, face à Hegel, nous servir de cette petite parole de Monod. La vie n'est pas dialectique. Petite parole très importante. Parce qu'elle est de Monod, donc elle n'est pas d'un aristotélicien, elle n'est pas d'un thomiste. Elle est tout simplement de quelqu'un qui a un certain sens de la vie. Et quand Monod nous dit que la vie n'est pas dialectique, il faut tout de suite sauter là-dessus. Essayer de comprendre le dépassement de la dialectique par notre expérience de la vie. Pour redécouvrir à l'intérieur de l'expérience du vivant ce qui dépasse la dialectique. Alors, qu'est-ce qui va dépasser la dialectique dans l'expérience du vivant? C'est que le vivant dure, la durée du vivant, ce que Bergson a mis en pleine lumière. Et ce qui est vrai, c'est une expérience intéressante parce qu'elle touche nos contemporains et qu'elle met en lumière quelque chose de vrai, caractéristique à la vie. Le propre du vivant, c'est d'impliquer la durée. Or, la durée fait que nous voyons que le vivant a donc des états extrêmes qui ne sont pas unis dans la synthèse, mais qui impliquent la durée. Or, la durée n'est pas la synthèse. La durée est donc redécouvrir qu'il y a dans le vivant quelque chose qui est au-delà de ces états différents. Le vivant est capable de s'actuer et le vivant n'est pas toujours en acte. Le vivant est capable de dormir, se reposer, et il est capable d'être en activité. Alors je crois qu'il faut bien comprendre ce repos du vivant. Et ce repos du vivant se situe au niveau biologique, se situe au niveau de la connaissance sensible, et se situe au niveau intellectuel. C'est très important pour un vivant de se reposer, vous savez bien. Il ne faut pas en faire la finalité. Ma finalité, j'ai vu que c'était tellement important pour le vivant de se reposer que j'en fais ma finalité. Non. Le repos est un moment dans la durée du vivant. Un vivant qui ne se reposerait plus ne durerait plus. C'est très curieux. Il a besoin de refaire ses forces. Et ceci, c'est vrai jusqu'au point de vue spirituel. Autrement, on tomberait dans l'agitation. Et l'agitation n'est plus la vie. C'est le tourbillon physique qui vous emporte. Et dans ce tourbillon physique et imaginaire qui vous emporte, il n'y a plus de repos, donc il n'y a plus de vie. Et le repos est au-delà de la dialectique. C'est très curieux. La dialectique n'implique pas le repos. Ce par quoi le vivant dépasse le point de vue de la dialectique. Se reposer, être capable de se reposer. Le vivant est un être capable de se reposer. Il y a un être capable de s'exercer et d'opérer. Donc, première distinction qu'Aristote avait déjà dit, que nous reprenons dans une perspective différente, mais que nous reprenons pour voir qu'il y a là une expérience très fondamentale au niveau du vivant. Le vivant est celui qui se repose, qui est capable de se reposer et qui est capable de s'actuer. Donc, première expérience. Deuxième expérience, je peux reprendre des expériences d'Aristote, c'est pas mauvais du tout. C'est pas parce qu'Aristote les a dit que ça n'a plus aucun sens. dans la mesure où je peux reprendre ce que le philosophe dit en le vivant, je le fais, c'est une économie. Alors, le philosophe, hein, il sait que c'est déjà difficile, alors il aime mieux. C'est pas tomber dans les ornières, hein. C'est reprendre une expérience à son compte, c'est-à-dire la revivre. Je suis capable de voir et je vois. C'est quand même une expérience très très importante pour saisir la naissance de la connaissance. Mais je mets les différents niveaux. Le niveau de la vie, au niveau substantiel. Le vivant se repose. Et si le vivant se repose, il se repose substantiellement. C'est bien évident. Comment serait pas le vivant? Il se repose et il s'éveille, il s'actue. Il s'éveille, il ouvre un œuvre, je veux dire, une manière de s'actuer particulièrement. Alors certains ouvrent les deux yeux en même temps. Ça dépend du degré de l'actuation. Deuxièmement, capable de voir. Et il voit. Donc là aussi, il s'actue. Alors ça, c'est la connaissance. Si c'est le point de vue simplement d'être, c'est le vivant. Capable de voir, et il voit. Là aussi, c'est une expérience que nous faisons constamment. Et nous n'y réfléchissons pas. Et nous comprenons que être capable de voir et de voir, il y a l'ordre analogue à celui qui se repose et qui s'actue. Alors, je mets la substance, elle va vraiment se reposer ici. C'est la substance qui se repose. C'est la substance qui en nous est le fond de l'égoïsme fondamental. Je suis trop fatigué, j'ai besoin de me reposer, laissez-moi tranquille. Ça, c'est l'égoïsme radical de la substance. C'est bon, le jour où on l'a plus, c'est dangereux. N'est-ce pas ? Alors, c'est vraiment l'aspect substantiel de la vie. C'est ça la durée. C'est l'aspect substantiel du vivant. Si le vivant n'était que périphérique, il ne se reposerait jamais. Parce que dans la périphérie, on ne se repose pas. N'est-ce pas ? Parce que si vous vous arrêtez, ça ne va pas, on vous chasse. Vous ne pouvez pas vous reposer. C'est très important, ça, vous savez, parce que c'est justement ce chose premier qu'on dit de temps en temps, la vie est périphérique. Non. La vie n'est pas périphérique. Les manifestations de la vie sont périphériques. Mais pas la vie. La vie n'est pas périphérique. Si la vie était périphérique, il n'y aurait plus de repos. Ce serait désastreux. Tandis que la vie étant substantielle peut se reposer. Il y a une immanence extraordinaire dans le repos. Cette immanence, c'est la vie substantielle. On n'a pas assez. Ça m'avait beaucoup frappé. Quand Marois, en exposant la politique de la vie, avait tellement insisté sur le repos du vivant. Et je trouve ça très beau, au point de vue biologique, que le vivant a besoin de se reposer, et que c'est caractéristique du vivant. Puisque dès que vous êtes en dehors de la vie, c'est le devenir. Il n'y a pas de repos dans le devenir. Tandis qu'il y a un repos au niveau du vivant. Alors c'est intéressant parce que ça montre de manière très très nette ces deux états, la durée, les deux états dans lesquels vous voyez, les deux états caractéristiques du vivant, et caractéristiques du vivant dans ce qu'il a de substantiel. Bien, ici, une autre caractère du vivant, c'est qu'il est capable de voir et qu'il voit. Donc, c'est l'exercice au niveau de la connaissance. Là, c'est au niveau de la vie substantielle. Ça facile à comprendre. Encore une autre distinction. celui qui est capable de contempler, celui qui contemple. Ceci, c'est au niveau proprement philosophique, hein, parce qu'au niveau mystique, vous ne pourriez pas dire que vous êtes capable de vous exercer quand vous voulez, parce que vous êtes sous la dépendance de l'Esprit Saint. Mais la contemplation philosophique, je la possède. Et on est capable de contempler quand on a l'habitus aux sagesses. Et donc, c'est encore un autre niveau. Là, c'est le premier niveau de la connaissance. Ici, c'est le niveau ultime de la connaissance. Et c'est intéressant de voir ces deux. Et c'est vrai qu'il y a les deux aspects. Et celui qui est capable de contempler, c'est celui qui a l'habitude de sagesse, qui a l'exercice. Il a l'habitude de sagesse. Et donc, il est capable de contempler quand il veut contempler. Un métaphysicien peut faire de la métaphysique quand il veut. Tandis que quand il n'est pas métaphysicien et qu'il n'a pas encore l'habitus, il doit d'abord se réveiller. C'est évident. Tandis qu'au contraire, quand il a l'habitus, il peut contempler quand il le veut. On disait ça de saint Thomas, vous savez bien. On disait que saint Thomas, quand il avait mal aux dents et qu'il allait chez le dentiste pour s'arracher des dents, à ce moment-là, on ne faisait pas de piqûre, hein, et c'était d'une façon un peu plus radicale. Alors saint Thomas, tout simplement, entrer en méditation métaphysique. Et par le fait même, il sentait beaucoup moins l'arrachement de la dent. C'est merveilleux, ça. C'est extraordinaire. Vous voyez, si vous avez l'habitude de sagesse, mettez-vous dans l'état de contemplation. Alors à ce moment-là, vous êtes au-dessus de la tempête. Là, c'était la rage de dent. Mais il peut y avoir d'autres tempêtes. Ça, c'est beau, c'est les rages de dents spirituelles. Vous voyez l'habitus de contemplation qui permet de vous mettre au-delà de la tempête. Vous voyez le prodrome de la tempête, vite ! L'habitus métaphysique. Et c'est vrai, ça, c'est très vrai que l'habitus de contemplation nous permet au plan métaphysique. Hein. Alors, nous tendons tous à ça. À 45 ans, vous aurez tous l'habitude de sagesse. N'est-ce pas ? Vous aurez tous l'habitude de sagesse. Et donc, vous aurez tous cette capacité merveilleuse. Ça, c'est merveilleux pour la vie commune, vous comprenez ? J'aime mieux mettre en contemplation métaphysique, parce que je sais très bien qu'autrement, je vais dire une grosse bêtise à mon frère, et qui m'agace monstrueusement, alors je mets en contemplation un hibernage spirituel, tu vois ? Et alors, à ce moment-là, je suis au-dessus de tous ces agacements terribles, hein, de la vie commune. J'ai quelque chose d'autre. Je suis un ciel bleu, magnifique, étonnant. Alors en dessous, oui, en dessous, il y a les orages. Je suis à une altitude suffisante. Vous voyez, c'est exactement la vision aérienne. La vision aérienne, elle est merveilleuse. Les nuages sont en dessous. C'est aucune espèce. Les gros moutons sont en dessous. Hein, et alors on a cette vision aérienne étonnante. Eh bien, il y a ça. Il y a une capacité de ça. Nous avons une capacité de nous mettre dans cette vision aérienne, contemplation. Et réelle, et là, on dépasse. C'est très beau, ça. C'est quand même quelque chose de très grand. Alors, évidemment, Aristote ne le donne pas parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais on peut le faire, on peut le donner. Donc, on a quand même cette capacité, au bout d'un certain temps qu'on a fait de la philosophie, qu'on s'entretient un peu, c'est ça qui est bon. Oui. De continuer de faire toujours un peu de métaphysique pour acquérir cet habitus de contemplation. Ça s'acquiert. C'est une chose qui s'acquiert. Il ne faut pas dire « Ah, oh, c'est pas pour moi, non. » C'est un habitus qui est le plus naturel qui soit. Je sais très bien qu'Aristote considère que la contemplation philosophique est quelque chose qui dépasse un tout petit peu les forces humaines, et donc qu'il y a quelque chose de divin et de supra-humain, mais ça reste quand même humain. Et donc nous avons tous en nous un appétit naturel à cette contemplation métaphysique. Tous ! Selon des modalités différentes, nous avons tous cet appétit naturel. Nous avons tous ce désir d'arriver à une certaine contemplation métaphysique. Et donc, nous avons tous ce désir d'acquérir cet exercice. Alors, vous voyez là, deux états très différents, mais qui sont quand même très importants à citer, les deux extrêmes dans l'ordre de la connaissance. Je peux prendre un autre exemple encore. Une fois que j'ai compris, je saisis mes états différents. Je peux toujours saisir ces deux états différents. Je suis capable de contempler et je contemple. Je suis capable de voir et je vois. Je suis capable de me reposer, de me détendre. Et je suis capable de m'actuer, d'être tout à fait présent dans le point de vue de mon actuation. Mais en fond, c'est l'homme qui, de fait, montre là qu'il a sur lui un certain dominium. Je suis capable... Alors, je dis autre chose encore. Hein. Je suis capable de construire... Ça, c'est propre à l'architecte, mais au fond, tout le monde, on peut construire quelque chose. Je suis capable de construire et je construis. Alors, mettez ici l'habitus d'art. Je suis capable de faire la cuisine et je fais la cuisine. Vous voyez, je suis capable de faire la cuisine plus ou moins bien. Mais il y a un art. Je suis capable de peindre et je peins. Je suis capable de sculpter et je sculpte. Voyez, donc, cette capacité du niveau du facere, c'est encore autre chose. C'est l'œuvre. Je suis capable de réaliser une œuvre. Et la capacité de une dissertation quand on vous demande de faire un petit travail philosophique. Non. Je suis capable de le faire. Alors vous allez dire non, je ne suis pas capable de le faire. Je suis capable de gratter, de salir du papier, salir à peu près. Mais le contenu, je me sens absolument capable. Et c'est vrai. Il suffit de se trouver devant une feuille blanche pour dire qu'est-ce que je mets dessus. C'est sûr. Mais petit à petit, dans un domaine ou un autre, je suis capable de réaliser quelque chose. Un gosse, vous donnez des cubes, il le fait. Il le fait. Quand il a imité après, on peut toujours imiter. Donc, on a tous. C'est très bon, hein, et c'est même nécessaire de garder cette capacité dans l'ordre du facere. Avoir toujours un petit violon d'âcre. Un petit violon d'âcre, tu vois. À Jean 23, vous savez, quand on lui demandait, quand il a été nommé pape, on lui a demandé quel est votre violon d'âcre. On lui a demandé ça à tous ses papas, à tous ses cousins, plus exactement. On a demandé à tous ses cousins quel est votre violon d'âcre. Quel est son. Quand il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ces braves neveux, cousins, il y en avait beaucoup du fait qu'il était pape. Hein. Il y en avait des quantités. Tous les cousins qui étaient en France, dans la Méditerranée, se sont dit tout de suite cousins. Alors, il y a eu une réponse étonnante. Je l'ai entendue, celle-là. Je l'ai entendue dire. Je vais regarder parce qu'elle vaut son pesant d'or. Quel est le violon dingue de votre oncle? Je crois bien que c'est l'Église. C'est extraordinaire. C'est l'Église. Penser à l'Église, construire l'Église, vous voyez, construire l'Église. Alors, le violon d'âcre, ça prouve hein, qu'à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de violon d'âcre. C'était donc tout de suite la capacité immédiate. C'est bon d'avoir, et je crois qu'on doit ça, on doit le faire. C'est une question de prudence, d'avoir dans un domaine particulier une petite possibilité de réaliser quelque chose. Maintenir un peu le coin du facere. Métaphysiquement, c'est bon. Comprendre que l'œuvre est quelque chose. C'est quelque chose. Réaliser une œuvre. Traduire pour quelqu'un qui aime de traduire. C'est une œuvre, traduire. Avoir dans ce domaine-là une possibilité d'avoir... Au fond, vous voyez, c'est ce que je dirais, d'avoir toujours un chantier au point de vue de sa vie humaine. Alors, vous avez le chantier de la cuisine. Parce qu'il y en a qui aiment d'être maître coq. Hein? Alors évidemment, quand c'est dans un couvent, ils disent la matière n'est pas fameuse. Mais ça fait rien, c'est la matière n'est pas fameuse. Alors comment voulez-vous que je puisse faire quelque chose de bon? Il n'y a rien, il y a des choses tout à fait primitives. Pas alors si je suis un maître coq, j'ai besoin de ça même de quelqu'un. Il faut voir hein, quelqu'un qui a un petit peu de capacité et qui fait le tour d'une cuisine. Rien, rien, on ne peut rien faire. Rien du tout. Il y a que du gros matériel, c'est tout. Donc on ne peut rien faire. Et c'est vrai, pour certains, ils ne pourront exercer leur capacité artistique que si ça en vaut la peine. Ça, c'est le caprice de l'artiste. Parce que l'artiste, ce n'est pas le gatsos. Le moine, c'est le gatsos. Hein, en tant que moine, il fait ça par part de voir. Il a moralisé son, jusqu'à la cuisine. Et quand on moralise la cuisine... C'est la dernière des choses, parce que vous êtes capable de tout empoisonner par devoir. Alors qu'il faut un peu d'art. Il faut un peu d'art. Alors je crois que c'est très important. Chacun d'entre nous, ça fait partie de l'équilibre de sa vie. De maintenir quelque chose. Alors pas que ça ne prenne pas la place principale, mais maintenir quelque chose dans lequel on a un tout petit peu de capacité. Réaliser une œuvre. Ça fait partie de notre, j'allais dire, de notre équilibre humain. C'est nécessaire. Alors, ça peut se faire, je dis, une traduction au point de vue philosophique, parce que réaliser une œuvre, aimer de réaliser, c'est plus difficile au point de vue philosophique, parce que si on est fatigué, c'est quelquefois. Alors, quelquefois, c'est bon de. Si on a un petit peu d'attitude là, ça, d'aimer peindre, si on a cette aptitude de faire de quelque chose, quoi, d'arriver à réaliser une œuvre. Bon, alors ça, vous avez une expérience en deux. Je vais les deux, je vais les trois. On peut encore dire hein, que la matière est capable de recevoir la forme, et la forme l'actue. La matière, en prenant matière au sens très très fort, très général, pas la matière prima, parce que celle-là, je ne peux pas l'expérimenter. Et d'une façon générale, tout ce qui est imparfait à l'égard de ce qui est parfait. Alors, multiplier les expériences dans ce domaine-là, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est pas du tout mauvais de multiplier ses propres expériences, de saisir que le vivant, l'homme, est capable d'avoir deux états différents. Des états différents du côté de sa vie biologique, du côté de sa connaissance, on pourrait mettre aussi du côté affectif, vous voyez. On pourrait mettre ça, capacité de vouloir, d'aimer, bien certaines capacités d'aimer, et puis d'aimer, capable de construire le point de vue radical de notre univers que nous voyons, la matière qui est capable d'être déterminée par la forme, tout ce qui est imparfait est capable d'être achevé. On a le sens de ces différents aspects. Tout ça, nous les portons en nous. Nous portons en nous ces différents états. Nous portons en nous ces différentes manières de voir. Alors, une fois que j'ai cette expérience, je réfléchis sur ces expériences et je vois que toutes ces expériences sont dans des domaines très différents. La vie, la connaissance, le point de vue d'amour, le point de vue du facere, le point de vue radical du monde physique, de la nature, parce que c'est la matière nature, ou la nature matière, et puis, d'une façon tout à fait générale, le devenir. Je vois qu'il y a tout ça en moi. Tout ça existe en moi. Je peux l'expérimenter. Je vois qu'à travers ces diverses expériences, il y a un ordre Ça aussi, je peux l'expérimenter. Je me repose pour pouvoir davantage me mobiliser. Je repose ma vue pour pouvoir mieux voir. Je me repose de la contemplation pour mieux contempler. Je prends un peu de recul au point de vue de la volonté pour mieux vouloir. Je suis capable, et ainsi de suite. Il y a un ordre. Ça aussi, je crois que c'est facile à comprendre. Tout ça, nous pouvons tous, absolument tous, hein, même sans avoir l'habitus métaphysique, sauf celui-là. Celui-là, je l'entre parenthèse, parce que même si vous ne pouvez pas encore, vous êtes en état d'imperfection en vue de la perfection, n'est-ce pas ? Ce n'est pas encore. Ah, je ne suis encore que dans l'état d'imperfection. Je devine qu'il peut y avoir un habitus qui pousse, mais il n'est pas encore très élevé, cet habitus. Vous voyez, Platon dirait, les dents commencent à monter, comme dans un gosse. Hein. Il a mal aux dents. Alors quelquefois, on est en mal de l'habitus métaphysique, de l'habitus de sagesse. On commence à pleurer. Exactement comme le gosse pleure parce que c'est il a mal au dos. État d'imperfection vers un état de perfection. Je constate cela. Et je m'interroge. C'est très important le moment de l'interrogation dans toute induction. Je vous l'ai déjà dit. Je m'interroge. Que représente exactement ce passage? Que représente exactement cette différence entre ces deux états? Que représente exactement cet ordre? Je vois que ça ne peut pas s'expliquer par la métaphysique de la substance. Je suis en face d'un au-delà de la métaphysique de la substance. Pourquoi? Parce que le vivant substantiel a ces deux états. L'homme, en tant qu'il connaît, a ces deux états. C'est lui. Donc la substance, ça n'explique pas. La qualité non plus. Puisque c'est la qualité elle-même qui peut avoir ces deux états. Donc la qualité ne s'explique pas. Parce que la qualité est de l'ordre de la détermination et de la forme. Je vois donc que je suis obligé de faire appel à quelque chose d'autre que la détermination et la forme. Et ce qu'il y a de fondamental dans toute détermination et forme, le point de vue de la substance. Je suis obligé de faire appel à quelque chose d'autre. Alors, quel est ce quelque chose d'autre qui peut expliquer ces deux états particuliers que je constate en moi? Ce n'est pas de l'ordre de l'exercice, puisque l'exercice, c'est ce qui explique le passage d'un état à l'autre. Alors, l'exercice n'expliquerait pas ces deux états. Il faut donc aller au-delà de l'exercice. Donc aller au-delà de la forme et au-delà de l'exercice. Puisque l'exercice, c'est le passage. Je passe de l'état de capacité de voir à voir. Donc je m'exerce. Je fais de la gymnastique, je m'exerce. Je passe de cet état de capacité à cette capacité de construire à construire. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est de saisir qu'est-ce que c'est que cet état de capacité? Qu'est-ce que c'est que cet état d'acte? L'exercice explique le passage, mais n'explique pas les deux états. Ces deux états, il y en a un qui est imparfait, l'autre qui est parfait, l'un qui est donc ordonné à l'autre, l'autre est quelque chose d'ultime. Donc, il touche quelque chose d'ultime, au-delà de quoi je ne peux pas aller. L'exercice unit, mais il y a quelque chose de plus. Alors, c'est là où, interrogeant, je me dis que ça ne peut s'expliquer qu'au niveau de l'être. Pourquoi? Parce que ces distinctions se retrouvent aussi bien dans l'ordre du devenir, dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'activité morale, dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre du facere. Donc, toute toutes les distinctions, des niveaux différents d'être où j'ai de fait poussé ma philosophie, sont dépassés. Le seul facteur commun qui unit cette diversité, ça ne peut être que l'être. C'est donc une distinction qui est fondamentale dans l'être et que je dois découvrir au niveau de l'être. Vous voyez comment je creuse, hein ? Mon interrogation m'oblige de creuser et de voir que c'est au niveau de l'être qu'il y a quelque chose à saisir entre ces deux états. Cet état d'imperfection, cet état de perfection. L'être se donne à moi dans ces deux états, comme la vie, comme le facere, comme l'agir. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que cet état d'être celui au-delà de quoi je ne peux pas aller ? Et d'être celui, au contraire, qui est comme une attente. Que représentent ces deux états au niveau de l'être ? Et je saisis à ce moment-là, à l'intérieur de cette diversité, que, en effet, l'être se donne à moi à travers ces deux états. Mais si l'être se donne à moi à travers ces deux états, c'est qu'il y a dans l'être quelque chose qui va rendre raison de ces deux états. Il y a dans l'être une source de ces deux états, puisque ces deux états sont à l'intérieur même de l'être. Il faut donc découvrir ce qui rend raison de cette distinction de ces deux états. Ça ne peut pas être l'être en puissance, puisque celui-là ne peut pas expliquer l'état de perfection. C'est donc l'état de perfection qui peut seul expliquer l'état d'imperfection. C'est l'état de perfection qui explique l'état d'imperfection. C'est la vision qui explique la capacité de voir. Ce n'est pas la capacité de voir qui explique la vision. C'est la contemplation qui explique mon exis, mon habitus de sagesse. Ce n'est pas mon habitus de sagesse qui explique la contemplation. Il faut donc regarder cet état de perfection. Cet état de perfection, je peux le regarder de deux manières. Je peux le regarder en tant qu'il est un état de perfection. Alors à ce moment-là, je l'oppose à l'état d'imperfection. Mais je peux le regarder en tant qu'il est le principe ultime, au-delà de quoi je ne peux pas aller, et qui explique l'état d'imperfection, qui ne s'oppose pas, mais qui l'explique. C'est là où je saisis l'être en acte. Vous voyez comment, progressivement, dans une induction, je peux saisir qu'il y a dans l'être une source qui explique son état de perfection, et qui explique le lien qui existe entre l'état d'imperfection et l'état de perfection. Cet au-delà de l'état de perfection, c'est ce que j'appelle l'être en acte. L'être qui est en lui-même sa propre fin. L'être qui est en lui-même ce qu'il y a en lui de plus actuel, l'être en acte. Je saisis donc là l'être dans ce qu'il a de plus lui-même et d'ultime. Je ne peux pas aller plus loin. Et dès que je saisis cet être en acte comme principe final, comme principe et cause selon la fin, ce qu'il y a d'ultime, dans l'ordre de l'être, je saisis immédiatement l'être en puissance. relativement à lui. Donc, je divise à ce moment-là ce qui est, dans ces différents moments, sans des diverses modalités, je divise ce qui est en saisissant dans ce qui est ce qu'il y a d'ultime.